Audiolib présente Le retour du jeune prince d'Alejandro Guillermo Romers, lu par Jean-Baptiste Artigas. Chapitre 1er. Je roulais seul dans mon automobile sur une route de Patagonie, une terre qui, dit-on, tiendrait son nom d'une tribu indigène aux pieds immenses, quand j'aperçus un objet à l'aspect singulier sur le bas-côté. Instinctivement, je freinai et distinguai une mèche de cheveux blonds qui dépassait d'une couverture bleue. Intrigué, je coupai le moteur et descendis de voiture. Là, dans cette lande déserte, à des centaines de kilomètres du village le plus proche, un jeune garçon dormait en toute quiétude, ses traits innocents parfaitement détendus. Ce que j'avais d'abord pris pour une couverture était en réalité une grande cape bleue, doublée de pourpre, que la brise de printemps soulevait par instants, révélant un pantalon blanc passé dans des bottes de cuir noir, comme en portent les cavaliers. Cet accoutrement quasi princier avait quelque chose d'incongru sous ses latitudes. Je restais un moment à le contempler sans parvenir à m'expliquer cette mystérieuse présence. On aurait dit que même les tourbillons de poussière charriés par le vent qui soufflait des montagnes l'avaient épargné. Je réalisais soudain que je ne pouvais pas le laisser seul au milieu de cette plaine aride, sans eau ni nourriture. Son aspect ne m'inspirait pas la moindre crainte, mais je dus vaincre une certaine appréhension pour l'approcher. Sans trop de difficulté, je le soulevai de terre et le déposai sur le siège passager. Ne constatant aucune réaction de sa part, je crus qu'il était mort. Mais le battement faible, quoique régulier, de son pouls m'indiqua qu'il était bien vivant. Quand je laissai retomber sa main inerte sur le siège, j'eus l'étrange impression d'être en présence d'un ange tombé du ciel. Plus tard, je découvris qu'il était épuisé à l'extrême limite de ses forces. Je songeai que les adultes, avec leurs incessantes mises en garde, finissaient par nous éloigner les uns des autres, au point que le moindre contact, même visuel, devenait une source de gêne et d'appréhension. « J'ai soif », dit le garçon, me tirant brusquement de ma rêverie. Le son de sa voix, à peine audible, ressemblait au murmure cristallin de l'eau qu'il me réclamait. Pour des trajets comme celui-là, qui pouvaient durer jusqu'à 3 jours, j'emportais toujours des provisions afin d'éviter d'avoir à m'arrêter, sauf pour prendre de l'essence. Je lui tendis une bouteille et un gobelet en plastique, ainsi qu'un sandwich enveloppé dans du papier d'aluminium. Tandis qu'il buvait et mangeait en silence, les questions se bousculaient dans ma tête. D'où vient-il? Comment est-il arrivé jusqu'ici? Que faisait-il étendu sur le bas-côté? A-t-il de la famille? Où sont ses parents? Étant curieux par nature et toujours prêt à rendre service, je m'étonne même encore aujourd'hui d'avoir réussi à garder le silence pendant les longues minutes où mon passager reprenait des forces. Le garçon se restaurait tranquillement comme s'il était parfaitement normal qu'un inconnu apparaisse comme par magie au milieu d'une zone semi-désertique et lui porte secours. « Merci », me dit-il quand il eut fini, comme si ce simple mot suffisait à dissiper tous mes doutes. Je réalisais soudain que je ne lui avais même pas demandé où il allait. L'ayant trouvé sur le côté droit de la route, j'en avais déduit qu'il se rendait au sud, mais il était plus probable qu'il cherchait à rejoindre la capitale au nord. C'est drôle comme nous avons a priori tendance à penser que les autres suivent le même chemin que nous. Je me tournai de nouveau vers lui, mais trop tard, il était déjà retourné au pays des rêves. Chapitre 2. Je roulais depuis un bon moment, quand je sentis qu'une paire d'yeux bleus m'observait avec curiosité. « Bonjour, » dis-je en me tournant vers mon mystérieux passager. « Comment s'appelle ce drôle d'engin ?» me demanda-t-il en jetant des regards intrigués autour de lui. « Où sont les ailes ?»« Tu veux parler de la voiture ?»« La voiture ? Elle ne peut pas décoller de terre ?»« Non, » concédai-je légèrement froissé dans mon amour-propre. « Elle ne peut pas sortir de cette piste grise ?» s'enquit-il en désignant le pare-brise. « Cette piste grise s'appelle une route, » dis-je. « Si nous sortions de la route à cette vitesse, nous nous tuerions à coup sûr. »